Ensemble,
nous avons pris le contrôle.
Nous avons pris le contrôle de l'antenne d'RMC. Ça s'appelle Radio Brunet.
Une radio libre entre vous et Éric Brunet tous les après-midi.
Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
C'est Radio Brunet et c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC.
Citoyennes, citoyens, amis contribuables, vous le savez, jusqu'à jeudi, je vous pose une question de culture générale en début de chaque émission de Radio Brunet. Sur les États-Unis, le gagnant qui sera tiré au sort parmi les bonnes réponses, eh bien, remportera une visite VIP et un déjeuner exceptionnel à bord du légendaire Queen Mary II, le plus grand navire transatlantique du monde. C'est important parce que c'est un cadeau qui n'existe pas. Enfin, c'est une prestation qui n'existe pas. C'est un truc qu'on a fait pour vous. Voilà. Alors, c'est pas tout. Vendredi, en plus, on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui ont participé cette semaine au jeu, tous ceux qui ont envoyé des SMS. Et vendredi, donc, un gagnant remportera, lui, cette fois, une traversée transatlantique, départ historique depuis Le Havre, le 15 septembre, pour deux personnes à bord donc du Queen Mary II, direction New York, mesdames, messieurs. Le gagnant sera en cabine double extérieure, balcon, en pension complète. Voilà, alors, la première question, je vous la poserai dans quelques instants, mesdames, messieurs, ça va de soi. Mon Rémi, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Je la poserai
dans quelques minutes, parce que celui qui m'a donné la fiche, là, m'a donné la même fiche qu'hier.
Ah, moi, alors, je l'ai, j'ai la bonne.
Bah, vas-y, alors, merci.
La deuxième question de la semaine, quelle est la capitale des États-Unis? Attention, il faut réfléchir.
Mais pourquoi on pose des questions aussi débiles que ça? Non, attends, ça, moi je veux pas dans mon jeu des questions débiles.
Bah, je ferai remonter, c'est pas moi qui l'ai prévu.
Non, mais enfin, franchement.
En tout cas, c'est celle-là aujourd'hui, Eric.
Bon, d'accord.
Si vous pensez que c'est Washington, vous envoyez un par SMS au 73216. Si vous pensez que c'est New York, vous envoyez deux par SMS au même numéro.
Non, mais les mecs, on n'est pas sur un match de foot sur TF1 le soir. Voilà, donc demain, vous me faites des questions normales.
Bon, ouais, voilà. J'aime parce que tu pousses des coups de gueule, tu es capable de pousser des coups de gueule sur tout, tu as raison.
C'est prendre les gens pour des idiots.
Allez, une troisième, si vous pensez que c'est Chicago, vous envoyez 3 par SMS au 73216.
Voilà, donc alors, redis-moi, Washington 1, ensuite, c'est quoi la deuxième assertion?
New York 2 et Chicago 3.
3
par
voilà,
SMS au 73216.
Bon, voilà, merci. On va pas troubler la régie pub parce qu'on va pas leur brouiller les psychomoteurs. Mais voilà, très bien. Merci, mesdames, messieurs. Nous avons un sujet assez grave aujourd'hui. Bonjour Manon, je t'ai pas salué.
Salut Eric, bonjour à tous.
Puisque nous allons parler de l'indemnisation des victimes des actes de terroristes. Hein, une loi a été mise en place, je disais tout à l'heure, le 13 juillet 1930, mais depuis, il y a eu bien des lois hein, qui ont été voulues, souhaitées, votées dans ce doux pays de France, mesdames, messieurs. Et je dois dire que bon, ce dispositif qu'on va évoquer est loin d'être parfait, mais il est probablement l'un des plus complets, l'un des plus larges, et à mon avis, je suis pas un expert, mais j'ai regardé ça d'assez près, probablement l'un des plus généreux du monde. Et j'étais un peu étonné d'entendre sur les radios, sur les télévisions, ces derniers jours, des proches de victimes qui disaient « ça suffit pas, mon préjudice n'est pas véritablement pris en compte, je pense qu'il faudrait que l'État me donne davantage ». Et j'ai eu le sentiment, je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas un expert, mais j'ai eu le sentiment un peu qu'on était dans une négociation un peu... inapproprié, voilà, saugrenu et décalé, voilà. En tout cas, vous m'appelez au 3216 si vous-même vous faites partie de ces victimes, de ces proches de victimes. J'espère vous entendre et j'espère que vous déploierez des arguments.
Peut-on mettre un prix derrière une vie brisée? C'est la question que posent aujourd'hui plusieurs familles de victimes de l'attentat de Nice. L'une d'elles va même déposer une requête pour contester le montant de l'indemnisation qu'elle a reçue.
J'ai fait un bref calcul, ce qui me donne, je peux payer une nounou pendant 2 ans et demi à hauteur de ce que faisait ma mère.
Elle réclamait plus de 300 000 euros pour le préjudice. Elle en a obtenu 10 fois moins.
Sa mère avait un rôle prépondérant dans sa vie. Elle vivait avec elle. Elle s'occupait de ses petits-enfants. Elle s'occupait elle-même de sa fille. Lorsque vous défendez des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, eh bien, tout ceci a un coût.
Depuis l'attentat, il y a 7 mois, plus de 2000 dossiers d'indemnisation ont été déposés et 16,3 millions d'euros déjà versés.
Mon Rémi.
Elle s'appelle Natacha Bûcher. On vient de l'entendre. Elle a perdu sa mère le 14 juillet dernier à Nice lors de l'attentat. Et elle, le fonds chargé de l'indemnisation des victimes du terrorisme vient de proposer un peu plus de 30 000 euros. Donc, au terme, enfin, au nom du préjudice subi. Elle en réclamait 330 000 euros, notamment au titre du préjudice économique. On l'a entendu, sa maman, elle est maman célibataire et c'est sa mère qui gardait ses deux enfants. L'autre s'appelle Anne Muris. Elle a perdu, elle, sa fille, Camille, le 14 juillet dernier, toujours à Nice. Une femme en colère également contre l'indemnisation qui vient de lui être proposée par l'État. 55 000 euros. Et hier, sur RMC, elle a dénoncé une offre équivalente au prix d'une voiture. La secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, qui sera avec nous dans un instant, dit comprendre la colère de ces deux femmes. Mais elle ajoute que ces montants ne sont pas minimes comparés à ce qui se fait ailleurs en Europe. Et les recours en justice sont très rares. Alors c'est vrai, en croire les chiffres donnés par le Fonds de garantie lui-même, ces 10 dernières années, sur l'ensemble des dossiers traités, 97% se sont conclus par un accord amiable. Je parle des dossiers qui sont terminés. Depuis la création du fonds chargé de l'indemnisation des victimes du terrorisme en 1986, ce sont plus de 4000 personnes qui ont été indemnisées. Et ça, c'était avant les attentats de janvier 2015, ceux du 13 novembre, ceux du 14 juillet. Des attentats d'une ampleur jamais vue en France, avec un nombre de victimes jamais atteint. À tel point que la taxe sur les contrats d'assurance, les contrats que nous payons tous, contrats d'assurance habitation, d'assurance auto, mais c'est lui qui sert à financer le fonds. Il a dû être relevé cette année à 5,90 euros, prélevés donc sur chaque contrat d'assurance habitation ou auto que les Français souscrivent. C'est la solidarité nationale. Un système qui prend en charge l'intégralité des préjudices en France, physique, moral, économique. Souvent, il est considéré comme le meilleur en Europe, voire au monde. En Angleterre, par exemple, on y reviendra, Eric, le montant des indemnités est sévèrement plafonné suivant le type de blessure, alors qu'en Allemagne, le préjudice moral ne donne pas droit à réparation financière.
Merci à mes invités d'être là. Je salue Stéphane Jiquel. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, la FENVAC, c'est ça, hein?
Tout
à
fait.
On vous voit souvent sur les plateaux de télévision lorsque il est question justement de ce sujet de l'indemnisation des victimes. Je salue également mon autre invité, Maître Mouméana. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialisé en particulier dans les victimes du terrorisme. Alors j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes l'un et l'autre révoltés ou agacés parce que je dis d'abord, donc on va débattre sereinement. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre quand je dis qu'en France nous avons un des systèmes les plus j'hésite à prononcer le mot généreux, mais enfin compréhensif vis-à-vis des victimes des attentats terroristes?
On a un système qui est intéressant et il y a quelques jours on a eu la visite de la commission d'enquête parlementaire en Belgique, qui la Belgique se pose la question. Après d'avoir un système effectivement qui est performant, qui est pas un système privé, qui est pas un système d'indemnisation de l'État, qui est un peu entre les deux.
C'est quelque chose qui s'appelle, je le dis à tous ceux qui connaissent pas, c'est bien le FGTI, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions.
Exactement.
Autres infractions.
Alors après sur les quantums, parce qu'on a parlé de l'Allemagne, alors il faut être précis, hein, parce que surtout qu'on passe de Nice. Si on fait quelques kilomètres, on est en Italie, et en Italie, la moyenne d'indemnisation est 10 fois supérieure à ce qui est donné en France. Donc l'Europe aussi doit se construire effectivement sur ces bases-là.
Donc quand je dis que le système français est l'un des plus généreux, vous dites non, parce qu'en Italie...
Non, parce que le système français d'indemnisation des victimes du terrorisme, c'est de dire voilà, on traite les victimes de terrorisme comme les victimes d'un accident de la circulation.
D'accord.
Voilà, c'est les règles communes. Moi je voudrais simplement juste partir du réel. Moi je vais pas me prononcer sur le cas de Madame Buchet qu'on accompagne depuis plusieurs mois, mais il y a quelques évidences. Aujourd'hui, c'est pas 5,90 € que ça nous coûte le terrorisme, ça nous coûte 1,20 € par an, parce que dans les 5,90 €, il y a tout ce qui est, par exemple, si demain vous prenez
les 5,90 €, on rappelle, on peut parler bien,
y a beaucoup de
la somme
pas,
qui est prélevée
voilà. sur chaque contrat d'assurance
que nous payons, mon habitation, ma
exactement,
voiture, etc.
Voilà. Exactement, mais sur ces 5,90 €, ça couvre aussi, demain vous êtes dans la rue, vous prenez un coup de couteau, l'auteur n'est pas solvable ou l'auteur n'est pas identifié, le fonds va vous indemniser.
Compris.
Donc grosso modo, on va pas parler beaucoup de chiffres, mais l'indemnisation, le coût de l'indemnisation pour un foyer d'une victime, pour les victimes de terrorisme, c'est 10 centimes par mois. Bon, je pense que ça empêche personne de vivre. Après, le fonds d'indemnisation est un bon système, je le dis, et j'ai même dit que le fonds d'indemnisation, c'était un outil de résistance au terrorisme. Parce que prendre soin des victimes, c'est résister au terrorisme. Mais après, il faut voir comment ça se passe. C'est-à-dire que vous êtes famille endeuillée, deux ou trois jours après, vous allez avoir un appel du fonds d'indemnisation qui va vous dire, voilà, je vous donne une avance sur indemnisation de 10 000 ou 20 000 euros et je prends en charge les frais d'obsèques directement.
Juste une question. Une famille endeuillée, c'est-à-dire une meurt, c'est une tragédie. qui le font indemnise-t-il l'époux, les enfants majeurs,
les enfants, les frères, les grands-parents, les arrière-grands-parents. L'idée, voilà, il faut.
C'est étonnant ce que vous me dites parce que je découvre. Encore une fois, il n'y a pas de question polémique, je vous l'assure. Une personne de 62 ans meurt, son époux, par exemple, ses trois enfants, les grands-parents et éventuellement un cousin proche qui habitait.
Pas un cousin, voilà. Frère, mais c'est aujourd'hui, il faut retenir que l'indemnisation des victimes de terrorisme, c'est les mêmes règles que l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation.
D'accord.
Après, comment ça se passe? Et parce que moi, je crois que le problème fondamental, c'est comment ça se passe. Donc, vos obsèques, les obsèques sont payées directement par le fonds d'indemnisation auprès de la société d'obsèques. Vous donnez un RIB, vous donnez un livret de famille. Et puis, 3 ou 4 mois après, vous ouvrez votre boîte aux lettres. Et vous avez un courrier en disant, vous avez perdu votre fille, on décide de vous donner 50 000 euros, on vous a déjà donné 20 000 euros, donc il reste à verser 35 000 euros, et les 35 000 euros, les 80%, en attendant votre décision, on les vire sur votre compte bancaire. Ouais. C'est là où ça pêche, si vous voulez, parce que moi, les familles me disent, mais on nous demande même pas comment ça va. Et on dit, 3 ou 4 mois après, on ferme le dossier. Donc, et on n'écoute pas.
Le fonds d'indemnisation, c'est pas non plus une cellule psychologique,
non,
je veux dire.
Mais c'est simplement...
Non mais, voilà, oui.
On va être sur des choix de société. Attends, moi, je le dis clairement, on est sur des choix de société.
Combien coûte une vie?
Non, la question, c'est comment on traite les gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans des grilles? Est-ce qu'on en est dans des cases? Et à un moment, il faut prendre le temps d'écouter la personne.
Mais vous ne pouvez pas conférer, allouer à ce fonds d'indemnisation une mission qui dépasse ce qu'il est. Qu'un fonds d'indemnisation.
L'indemnisation,
il ne peut pas faire en sorte que la vie des victimes et des proches soit mieux aujourd'hui qu'avant.
L'indemnisation, elle porte sur la reconnaissance de ce que vous avez vécu. Ouais. Et si un père de famille décède, est-ce qu'on ne doit pas prendre en considération la situation de ses enfants et que notre mission, notre choix de société, c'est de faire en sorte que ses enfants ne soient pas entravés dans la scolarité? Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on donne victoire posthume aux terroristes. C'est un choix de société.
On va une seconde, mesdames, messieurs, la personne qui parle, c'est Stéphane Jiquel, secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats d'accident. Je voudrais qu'on écoute deux victimes. Ce sont des sons qui étaient dans les journaux d'RMC un journal de France Info, d'ailleurs. Je vais me permettre de vous les faire écouter. Natacha, tout de suite, sa maman, sa mère, est décédée lors de l'attentat de Nice. C'est un son que j'ai trouvé sur France Info et qui était diffusé dimanche. Écoutez, s'il vous plaît.
Avant, je payais un mercredi sur deux de centre aéré. Là, je paye tous les mercredis. Les vacances scolaires, c'est toutes les 6 semaines, quoi. J'ai fait un bref calcul, ce qui me donne... Je peux payer une nounou pendant 2 ans et demi à hauteur de ce que je faisais ma mère.
Bon, et maître Memoumana, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans les victimes du terrorisme. C'est ça, ce son que j'écoutais dans ma voiture, qui m'a un peu écorché l'oreille. Alors, bien sûr... Cette femme est en souffrance, elle a perdu une proche, c'est évident, mais elle convoque quoi? Elle convoque la souffrance et le deuil. On a tous été dans notre vie touchés par cela. Mais elle dit, enfin, on est rentré dans un discours un peu, je sais pas, enfin, elle semble mettre face à cela une espèce de somme, une espèce de rationnel. Ma mère coûte tant, et ce système de fonds de garantie ne me donne pas tant, donc je suis pas d'accord, donc je suis prêt d'ailleurs à attaquer l'État ou ce fonds de garantie pour avoir plus, parce que ma mère s'occupait de ma fille pour l'amener à la crèche, etc. Et ça m'a un peu gêné, mais je suis peut-être anormal, maître.
Non, mais vous avez posé une question fondamentale tout à l'heure, mais il faut y répondre. Quel est le prix d'une vie? Mais aujourd'hui en France, le prix d'une vie est une vie qui en réalité n'a pas de prix, elle est complètement sous-évaluée. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand tabou. Dès lors qu'on commence à parler d'argent, d'indemnisation, on se dit en effet que les victimes ne devraient rien réclamer. Et dès que les victimes commencent à réclamer des droits, sachez que le droit français est basé sur un principe incontournable, c'est la réparation de tous les préjudices, rien que les préjudices. Et tout à l'heure, vous posiez la question en disant, mais finalement, le système français est peut-être le meilleur au monde. Et je vous dis que non. Le meilleur au monde aujourd'hui, c'est le système américain. Pourquoi? Parce que le prix d'une vie, moi j'ai une victime à Nice qui perd sa fille de 2 ans. C'est la plus jeune victime des attentats de Nice. Et en même temps, le camion arrive, il fauche sa fille de 2 ans, et il fauche sa mère. Sa mère meurt sur le coup, et lui, il a dans ses bras sa fille. Il a encore le râle de sa fille. Et il y a un passant qui arrive, qui est médecin, qui essaye de récupérer le pouls. Et alors, c'est le bonheur de sa vie, parce que lui dit, ça y est, votre fille est sauvée, on a récupéré le pouls. Deux minutes après, le pouls s'effondre, et sa fille, elle meurt dans ses bras. Mmh. Et ce père de famille, ce jeune père de famille, à 10h30, quand le camion arrive, il va veiller sa fille jusqu'à 7h du matin, lorsqu'on va ramasser les cadavres. Je peux vous dire que ce père de famille, maintenant, aujourd'hui, il ne dort qu'à partir de 7h30 du matin, il ne dort plus la nuit. Combien vaut cette souffrance? Le fonds de garantie fait des propositions pour une souffrance et un préjudice d'affection de 30 000 euros. Mmh. Mais tout le monde va dire c'est dérisoire parce que c'est pas le prix d'une vie, parce que ça n'a pas de prix, mais ce n'est pas une raison pour sous-évaluer le préjudice.
Au vu de l'histoire que vous me racontez, 1 milliard d'euros est dérisoire aussi.
Absolument.
1 milliard d'euros est dérisoire pour les gens que j'aime et qui m'entourent.
Absolument.
Et qui vous entourent.
Alors comment fait-on?
Alors
je vais vous dire comment on fait. Et c'est ce que ne fait pas le fonds de garantie. Et lorsque tout à l'heure on disait est-ce que c'est un bon système, moi je vous réponds que c'était un très mauvais système, le fonds de garantie. Puisque le fonds de garantie barre et mise. Et quand les personnes sont blessées, je peux vous dire que si une personne est blessée dans le cadre d'un attentat, blessée à la jambe, il aura beaucoup plus que 30 000 euros alors que la personne a perdu un enfant. Pourquoi? Parce que le fonds de garantie ne va pas faire d'expertise. Et lorsqu'une personne est en deuil, la première chose à faire, parce que le deuil il est souvent pathologique, c'est une expertise médicale. Et l'expert médical va évaluer l'ensemble des préjudices. Parce que en France, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on pratique, et notamment devant les tribunaux.
J'entends. Mais vous me faites entrer dans une démarche juridique différente, je comprends et j'entends. Mais enfin... Philosophiquement, c'est quoi ce fonds de garantie? C'est la solidarité nationale qui s'exprime. C'est 66 millions de Français qui, à travers leur contrat d'assurance, donnent de l'argent qui permet d'indemniser des victimes du terrorisme. C'est exceptionnel. Non. Philosophiquement, mais c'est merveilleux, mais c'est fabuleux, puisque de toute façon, on sait très bien que une personne qui meurt, c'est une tragédie, c'est épouvantable, et que c'est pas 10 000, 20 000 ou 30 000 euros qui vont pouvoir la faire revenir. Bon, c'est une première aide qui essaie de compenser, mais qui ne compensera pas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il puisse y avoir des gens qui disent oui, mais attention, c'est compliqué parce que moi, mon beau-frère qui est disparu, il venait chez moi tous les mardis pour me faire un cours d'informatique,
etc.
Je caricature. Ok, très bien, je caricature. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on peut pas dire à la solidarité nationale qui est là pour combler un truc que de toute façon elle ne comblera pas. On peut pas dire, l'État c'est moins bien qu'avant. Mais bien évidemment, l'État n'arrivera pas à rendre ces personnes qui sont mortes, et je ne comprends pas qu'on se mette dans une espèce d'échange mercantile avec l'État, sachant que l'État fait un petit acte de générosité.
Si demain vous êtes fauché par un véhicule dont le conducteur n'a pas de permis de conduire, évidemment, les proches vont subir un préjudice, préjudice économique.
Mais
il va falloir réparer. Comment le répartit-on? Il y a le système du fonds de garantie qui va intervenir, mais le fonds de garantie, il est alimenté par tous les Français.
Oui.
Mais il devrait être alimenté sur le budget de la nation. Donc, vous allez être fauché par un véhicule qui n'a pas d'assurance, donc l'assureur ne répond pas, c'est le fonds de garantie. Et c'est normal, parce que c'est le système de solidarité nationale.
Oui.
Et on va calculer tous vos préjudices. Les pertes professionnelles pour les proches, les études, les préjudices d'affection, etc. Et c'est normal.
Oui.
Là où ça va pas pour le fonds de garantie.
C'est la même chose pour le terrorisme, non?
Absolument.
Oui, c'est la même
chose. Parce que le fonds de garantie intervient depuis 30 ans, pour les victimes d'infractions pénales.
D'accord.
Moi, j'ai défendu une victime devant le fonds de garantie, mais j'étais pas d'accord. Une victime qui prend une balle et qui est devenue paralysée. Le fonds de garantie va proposer, au regard, il perd son travail, il peut pas rentrer chez lui, il doit y avoir un préjudice d'aménagement, etc. Le fonds de garantie va proposer 300 000 euros, je refuse, qu'est-ce que je fais? Je vais devant le tribunal, et le tribunal va octroyer 1 100 000 euros. Autrement dit, il faut aller en justice, parce que la justice, les juges, c'est la réparation intégrale des préjudices. Voilà, c'est juste une réparation de l'ampleur des préjudices.
Il y a eu des voyous aussi, Stéphane Jiquel. Il y a des gens qui ont essayé de gruger.
Mais le système a marché.
Il y a des gens qui ont dit, nous étions à Nice, nous sommes traumatisés. On a pu établir qu'ils étaient à Clermont-Ferrand.
Ils ont été lourdement condamnés. Soyez rassurés.
Qu'est-ce qu'ils ont eu comme condamnation, d'ailleurs?
Il y a plusieurs cas. Une peine de prison ferme.
De 1 à 6 ans, parce que le plus, on a eu 6 ans. Il y, a, y a plus de gens qui ne vont pas demander une indemnisation qu'ils devraient avoir.
Oui.
Mais une nouvelle fois, moi je dis, on est devant un choix de société. L'indemnisation en 30 ans des victimes de terrorisme jusqu'en 2015, c'était 100 millions d'euros. Les catastrophes naturelles sur la même période de 25 ans, c'est 25 milliards d'euros. Alors, moi, qu'on m'explique pourquoi on trouve les ressources pour financer des frigos, des maisons, comment dire, inondées, et pourquoi, pour des victimes du terrorisme, on ne peut pas trouver, ou on trouve illégitime de trouver des sommes moindre que ces 25 milliards. C'est un choix de société. Alors ça veut dire qu'on fait quoi pour les victimes de terrorisme? On fait venir le président de la République, on fait une cérémonie, on fait des bouquets de fleurs, on a même créé une médaille pour les victimes de terrorisme.
Oui.
Alors voilà, on vous donne votre cérémonie, on vous donne votre médaille, et circuler, il y a rien à voir. Non, parce que derrière, il y a des vies qui sont impactées durablement.
J'ai un chiffre, vous pouvez pas dire que voilà, entre 1986 et 2014,
106 millions.
Voilà.
106 millions.
C'est ça.
Moi, je suis administrateur du fonds de garantie, donc je connais la machine.
4070 victimes d'attentats ont été indemnisées, donc ne dites pas que ça marche pas, qu'on indemnise pas.
Mais je dis pas que ça marche pas.
Pour 106 millions d'euros.
Si on sous-indemnise
une victime d'attentat, on sous-indemnise également l'exemple du gars qui est fauché et dont la famille. Voilà. Le gars qui est fauché dans la rue et quand on veut indemniser son épouse, etc.
Et moi, chaque fois que je vais devant le tribunal contre le fonds de garantie, j'ai des résultats qui sont du simple au double, au triple, au quadruple. Et lorsque vous posiez la question, est-ce que c'est un bon système? Là, on commence aux États-Unis, par exemple. Vous avez une victime. Et lorsque vous êtes victime, il faut vraiment parler du traumatisme. C'est un mot qu'on n'a pas prononcé. C'est traumatisant. Vous avez des gens qui peuvent plus aller dans la rue. Il y a des gens qui peuvent plus reprendre le travail.
Ouais.
On a un préjudice. Le premier préjudice qui n'est pas indemnisé en France, mais on y arrivera, c'est le préjudice d'impuissance. Vous êtes fait agresser, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas répondre, que c'est impossible. Le préjudice de la colère qui est indemnisé aux États-Unis, beaucoup de préjudices. Ça n'existe pas.
Il paraît que Juliette Méadel, notre secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes, il paraît qu'elle a mis en place un préjudice d'angoisse. Maintenant, nous avons un préjudice d'angoisse.
Ça a été proposé dans un livre blanc.
Ça existe pour l'amiante.
Ouais.
Vous savez, les gens qui n'ont pas contracté la maladie, mais qui ont travaillé effectivement dans les usines d'amiante, la maladie, elle peut se déclarer. Le cancer du poumon à tout moment. C'est un préjudice d'angoisse.
Le préjudice d'angoisse. Je vais vous parler, c'est parti d'une affaire, vous vous souvenez, la chute de la passerelle du bateau du Queen Mary 2.
Oui.
En 2003, il y a des gens sur la passerelle, ça tombe.
Je me souviens.
Exactement. Et ben là, c'est la justice effectivement qui a dit qu'il y avait des circonstances particulières, des gens qui sont restés pendant des heures avec le corps de leur ami qui était dessus. Et c'est parti comme ça. C'est parti d'une décision de justice.
D'accord.
Mais une nouvelle fois, partons du réel, du vécu. Par exemple, des gens qui étaient au Bataclan. Vous étiez au Bataclan.
D'accord.
Voilà.
Bon, Mickaël, vous êtes là?
Oui, je suis là, vous m'entendez?
Vous pouvez attendre une minute, je vous prends juste après la pub, ok?
Merci.
Il paraît qu'il n'est pas content, Mickaël, on l'écoutera. Manon, ça vote comment?
Eh bien, aujourd'hui, Eric, tu trouves inapproprié que les proches des victimes d'attentats...
Que certains proches
de victimes d'attentats réclament toujours plus d'argent, et pour l'instant, vous êtes 76% à être d'accord avec toi, Eric.
Ah, alors là, je suis sidéré.
Voilà.
Ah bon?
Bah, je promis, il y avait plus de 1000 votants pour l'instant. Pour voter, c'est très simple, rmc.fr, les réseaux sociaux, et vous envoyez oui ou non par SMS au 61071.
On écoutera les arguments de Mickaël dans une seconde.
RMC, liberté, égalité. Radio Brunet. RMC jusqu'à 15h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet.
Vous votez sur rmc.fr, c'est vrai que je trouve inapproprié que certains proches des victimes d'attentats réclament plus d'argent à l'État. Mais j'écoute les arguments de mes contradicteurs aujourd'hui qui sont pas du tout d'accord avec moi. Je voudrais qu'on n'oublie pas la parole des victimes, parce que ne pensez pas, mesdames, messieurs, que pour autant je ne sois pas compassionnel. Je j'imagine ce que c'est que perdre un proche dans un attentat à Nice ou ailleurs. Ça n'est pas la question, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on écoute Anne. Sa fille est décédée lors de l'attentat de Nice, justement. Elle était hier au micro d'un reporter d'RMC.
Me dire que ma fille coûte 55 000 euros pour moi, c'est révoltant. Moi, ma fille a fait une école de commerce. 55 000 euros, ça ne paye même pas sa scolarité de 3 années de commerce. Cette indécence vous ajoute de la souffrance.
Bon, alors justement, Maître Méhana, vous êtes avocat spécialisé dans les victimes du terrorisme. Pour un même attentat, on en parlait pendant la pub, hein, on continue souvent le débat pendant la publicité. Pour un même attentat, vous me disiez, par exemple, à Bataclan, il va y avoir des niveaux d'indemnisation extrêmement différents. C'est quoi la subjectivité, les critères
Bah écoutez, pour une même victime, vous avez une victime qui a reçu 60 000 euros, puis une autre victime qui a reçu 300 000 euros.
Mais pourquoi
Parce que y a le rôle de l'avocat qui est important, qui doit faire et diligenter des procédures d'expertise, qui doit être présent afin que l'expert évalue tous les préjudices. Le post-traumatisme, il est évalué sur un barème du concours médical et donc indemnisé d'une manière importante qui n'a rien à voir avec les propositions forfaitaires du fonds de garantie. Vous savez,
On indemnise les dommages corporels, les dommages psychologiques.
Absolument.
Une personne qui n'a qu'un dommage psychologique, par exemple, qui est au Bataclan, ou alors qui est proche d'une personne qui était au Bataclan et qui est psychologiquement touchée. Elle est indemnisée, même si elle n'est pas présente dans la salle du Bataclan le soir de l'attentat?
Bah écoutez, la définition d'une victime, c'est toute personne qui a souffert directement d'un acte d'infraction. Donc, elle a le droit de réclamer effectivement un préjudice. Et moi, ce que je conseille, c'est qu'effectivement, de pas accepter des propositions forfaitaires du fonds de garantie qui va peut-être octroyer 5000 euros pour cette victime qui a vu par exemple des corps déchiquetés. Moi, lorsque je défends une personne au Stade de France qui était devant le terroriste qui s'est fait exploser, qui a reçu de la chair humaine, si elle va devant le fonds de garantie faire une proposition, le fonds de garantie va dire ok, on va vous indemniser de 8000 euros. Moi, je vais faire une expertise post-traumatique avec un médecin. Et donc là, on va évaluer effectivement l'ensemble de ses souffrances. Par exemple, vous indiquez, mais est-ce que c'est les victimes demandent trop ? Les victimes ne demandent pas trop, elles demandent simplement un principe qui est un principe de dignité humaine, c'est une réparation juste. Et on n'est pas sur l'excès ou le défaut.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'on demande une réparation à qui ? On demande pas une réparation à l'État islamique et à celui qui a causé la tragédie. C'est là que le truc philosophiquement me choque un peu. C'est qu'on demande pas une réparation à ceux, aux pays étrangers qui vont financer le terrorisme de l'État islamique. On demande une réparation aux contribuables français qui, à travers son petit contrat d'assurance, ça abonde ce fonds de garantie. Oui. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait dans le... Si c'était le Qatar ou je ne sais quoi qui finance le terrorisme qui payait, dirais vas-y coco.
Vous savez que vous avez des victimes américaines qui ont fait ça, ce que vous dites. Ouais. Il y a des victimes américaines qui ont déposé des plaintes contre des États finançant le terrorisme.
Alors juridiquement, le fonds peut le faire. Ouais. C'est-à-dire que juridiquement, quand le fonds indemnise, il est ce qu'on appelle subrogé dans les droits de la victime. Ouais. Il récupère chaque année le fonds, alors sur les autres infractions, il récupère 50 millions d'euros des sommes qu'il a versées.
D'accord.
Mais c'est vrai mais une nouvelle fois, il y a un débat de société. Ces victimes, elles ont été touchées parce que c'était la France qui est touchée. Vous savez, il faut partir de la parole des victimes. Au Bataclan, les gens, pendant 2 heures, il y a des terroristes qui passent et qui leur disent « On va vous tuer comme Hollande tue nos frères en Syrie ». Donc c'est pas une question de responsabilité de l'État. Parce qu'il n'y a pas une responsabilité au sens de la faute. Mais il y a une responsabilité de l'État de protéger ses citoyens.
Allez, on va prendre Michael qui est avec nous, 31 ans dans le Var. Bonjour Michael.
Oui, bonjour. Moi je vous appelle, je suis totalement désaccord avec vous. C'est un petit peu plus avec vos intervenants, je suis un peu plus d'accord, parce que pour moi, le principal fautif est bien entendu l'État, car les mesures n'ont pas été mises en place pour protéger la population. Donc il est logique, il est très logique que les personnes ne réclament de l'argent à l'État. C'est comme si par exemple un patron ne prend pas les mesures adéquates pour protéger son salarié, on se retournera contre lui. Et quand j'entends que 30 ou 40 000 euros, vous dites que c'est beaucoup, je trouve que c'est un petit peu égoïste aussi.
Oui.
Ça me semble vraiment, vraiment, vraiment une somme dérisoire. Et en plus, comme le dit l'intervenant, à partir du moment où on prend un avocat, où on a des moyens supplémentaires ou peut-être d'autres moyens pour se défendre, on touchera plus. Donc, franchement, certes, c'est vrai. Par contre, le seul point sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est vrai que les arguments apportés par les familles des victimes, en parlant de, par exemple, d'école ou de ci, de ça, ne sont pas les bons arguments. Mmh. Mais on a prouvé que Nice, que la mairie de Nice, que l'État les moyens n'étaient pas assez mis en place pour protéger la population. Donc, à partir de ce moment-là, il est logique que l'État paie son manque de moyens et sa faute. Quoi.
Merci, Mickaël. Restez avec nous, Stéphane Jiquel, de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. On a dit que les commissariats, dans les semaines qui ont précédé, étaient justement surchargés de gens qui, voyant la date limite arriver, voulaient se déclarer comme victimes.
Il n'y a pas de date limite. Enfin, on peut réclamer dans les 10 ans après l'événement. Ouais. Mais c'est vrai que sur Nice, on a été confronté à un problème de preuve. Comment voulez-vous prouver que vous étiez sur la promenade? Comment voulez-vous prouver que vous étiez sur cette portion de la promenade? Donc effectivement, il y a un parcours du combattant. C'est pas le FGTI, c'est pas un guichet en disant voilà, bonjour, j'ai été victime, hop, on vous fait un chèque. Je peux vous dire que prouver les choses, il faut tout prouver. Et c'est ça qui heurte aujourd'hui les familles, parce qu'il y a des choses que vous pouvez pas prouver. Mais par exemple, on va vous dire, prouvez-moi, montrez-moi des photos, comme quoi vous entendiez bien avec votre fille, que vous faisiez des choses en commun. Et c'est vrai que c'est aussi, les victimes se disent, voilà, c'est moi qui suis victime, et c'est moi qui dois prouver. Donc, une nouvelle fois, tout à l'heure, je vous dis, la méthode, la méthodologie, c'est extrêmement important. Et la prise en charge des victimes, c'est plus que l'indemnisation, mais par pitié, qu'on dise pas que finalement, on se lave les mains en faisant, voilà, on fait une cérémonie, on fait une plaque, et puis grosso modo, circuler, il n'y a rien à voir. Et juste un détail, parce que le Bataclan ou le 13 novembre, c'est 60 millions versés pour le moment. Nice, c'est 16 millions. C'est des sommes qui, excusez-moi, sont dérisoires. On nous dit, on est en guerre. Mais quand on est en guerre, on met des moyens exceptionnels. Et j'espère que ceux qui trouvent que c'est beaucoup, excusez-moi, vous allez peut-être me trouver un peu démago, ont eu la même indignation quand on a balancé comme ça 1 milliard sur les portiques, les portiques radar. On a dépensé 1 milliard et puis personne finalement s'est étonné. Et là, on parle
Les portiques de Ségolène Royal. Voilà. Oui.
Là, on parle de 300 millions qui vont aider concrètement des gens à ne pas tomber. À ne pas tomber dans la précarité.
Non, mais vous avez raison, les chiffres, de les mettre en perspective.
J'ai regardé une décision ce matin de justice pour quelqu'un qui a eu un préjudice parce qu'il y a eu une malfaçon de véranda, il a eu 35 000 euros. Et quand on offre une indemnisation de 30 000 euros à quelqu'un qui a perdu son enfant, voilà, tout est dérisoire, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens.
Émilie Petitjean est présidente de l'association Promenade des Anges, 14 juillet 2016, et elle a perdu son fils Romain de 10 ans dans l'attentat de Nice. Bonjour Émilie Petitjean.
Bonjour.
Alors vous avez une démarche un peu particulière, vous allez me l'expliquer, parce que vous avez refusé une indemnisation, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et puis pour quelle raison?
Le fonds de garantie en fait m'a proposé une indemnisation ne prenant en considération que le préjudice moral à hauteur de 62 500 euros. Donc ce que disait votre interlocuteur juste à présent pour l'indemnisation d'une véranda, on propose 30 000 euros. En gros, mon fils vaut deux fois une véranda.
Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez?
Très honnêtement, je n'ai pas de chiffre en tête parce que vous le disiez très justement et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de prix pour la vie de mon fils, ça c'est clair. Je préférerais que mon fils soit présent et avoir touché 0 euros. Ce qui me scandalise moi aujourd'hui, c'est que le fonds de garantie, il faut le rappeler, c'est un organisme privé qui est effectivement alimenté par les citoyens. Pour moi aujourd'hui, l'État est responsable de l'attentat et de la mort de mon enfant. À cause du manque de sécurité, mon enfant est décédé. Donc, pour moi, l'État devrait également alimenter le fonds de garantie.
Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, moi, quand j'ai dit, je trouve que parfois, certaines personnes abusent en réclamant toujours plus d'argent, quand j'ai dit ça, je partais du principe que l'État n'était pas responsable et que c'est la collectivité, la solidarité nationale qui abondait ce fonds. Bon, vous introduisez une notion nouvelle, vous dites, attention, moi, je considère que l'État a fait un défaut de sécurité et que cet attentat est survenu parce que l'État a fait un défaut de sécurité, et à ce titre-là, vous dites qu'il est responsable. Et que pour vous, philosophiquement, ça vous aide et ça vous conforte dans le fait de réclamer davantage.
Sauf qu'il y a une décision, alors juste pour apporter un élément supplémentaire, il y a une décision de justice qui a été rendue à ce sujet par le parquet de Nice, qui a dit qu'il n'y avait pas eu de faille de sécurité le 14 juillet.
Ouais. Je fais une précision juridique. Le parquet de Nice, le procureur, a simplement indiqué que sur les plaintes qui avaient été déposées
pour mise en danger de la vie d'autrui.
Donc des gens non victimes.
En réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de défaillance. Il a indiqué que c'était pas le bon délit, parce que la mise en danger de la vie d'autrui.
Il y a 23 familles proches qui avaient déjà été.
Je vous précise que la mise en danger de la vie d'autrui, c'est surtout une infraction pour les accidents de la circulation. Mais l'IGPN a rendu un rapport. Les juges d'instruction ont dans le dossier un rapport, il a été d'ailleurs publié par la presse, de la sous-direction antiterroriste, qui pointe les défaillances de sécurité à Nice.
D'accord. Émilie Petitjean, on vous a interrompu.
Moi, je voudrais simplement compléter en disant que effectivement, pour moi, l'État est autant responsable et je regrette que ce soit les citoyens qui doivent contribuer à, on va dire, à ma réparation, même si c'est un mot que je déteste. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en considération. Moi, j'ai passé toute la nuit sur les marges de la cellule psychologique à regarder le corps caché sous un drap blanc de mon enfant, de l'autre côté de la promenade, puisqu'ils n'ont rien trouvé de mieux que d'installer cette cellule psychologique juste en face de mon fils. Et j'ai passé toute la nuit de 1h du matin jusqu'à 8h, que enfin la médecine légale commence à intervenir, à regarder ce drap blanc. Et il y a toute cette attente qui a suivi derrière, où j'attendais et je surveillais mon téléphone comme le lait sur le feu à attendre un coup de fil de l'officier de police judiciaire pour me dire ça y est, on a eu l'aval de l'Institut médico-légal, vous allez pouvoir récupérer le corps de votre enfant. Cet appel, je l'ai attendu 5 jours. Il a fallu que j'attende 5 jours pour pouvoir enterrer et préparer dignement l'enterrement de mon enfant de 10 ans. Donc, il y a tout ce préjudice-là qui n'est pas pris en considération. Il y a aussi le préjudice économique. Et je comprends Nathalie Boucher qui a refusé parce que c'est une maman célibataire qui avait pour aide sa maman à elle, qui malheureusement est décédée, pour prendre en charge ses enfants en termes de périscolaire. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de reprendre le boulot. Je peux pas. Et j'ai une perte de salaire qui n'a pas été prise en considération. J'aurais dû avoir une promotion au 1er janvier pour laquelle je ne bénéficie pas de l'augmentation de salaire. J'estime que ça doit faire partie de mon préjudice. Parce que mon fils serait encore là, j'aurais eu cette promotion et j'aurais eu cette augmentation de salaire et j'aurais pu lui offrir une vie un petit peu plus agréable que ce qu'elle était déjà. Je ne me plains pas de ma situation. Mon employeur a eu la bonne idée de souscrire un contrat de prévoyance, donc j'ai quand même un complément de salaire qui fait que je n'ai pas une perte énorme, mais elle est quand même existante. Mmh. Et tout ça n'a pas été pris en considération.
Merci Émilie Petitjean, merci beaucoup. Je rappelle que vous présidez l'association Promenade des Anges, 14 juillet 2016, et que vous avez perdu votre fils Romain de 10 ans à Nice. Je vais prendre Laurent quelques instants avec moi. Il s'appelle Laurent, il m'appelle beaucoup d'appels du sud, hein, des Alpes-Maritimes, mon cher Laurent, bonjour.
Bonjour Monsieur Brunet.
Bon, c'est difficile hein, de réagir derrière ce témoignage d'une mère.
C'est difficile.
D'autant plus difficile, mon cher Laurent, que vous étiez un peu sur ma ligne, vous aussi, vous estimez que c'est un peu dur d'entendre certaines victimes réclamer davantage d'argent.
Bah c'est clair, demander de l'argent, mais l'argent ne fait pas le deuil, c'est pas possible. Mm. Bon, les gens ne veulent de l'argent. Mm. Mais c'est pas l'argent qui fait revenir les morts, c'est pas possible. Mm. C'est impensable pour moi. Moi, les gens, je ne les vois pas mais, se manifester contre le terrorisme. C'est là qu'il faut se battre, en fait. C'est là qu'ils devraient se battre, les gens. Mmh. Je sais que c'est dur de perdre un proche, un enfant. C'est ce qu'il y a de plus terrible de perdre un enfant. Mais il faut se battre contre ça. C'est pas en disant, ah, moi, je veux plus parce que j'ai perdu mon fils. Quand j'ai entendu avant que par rapport à sa fille qui avait fait des grandes études, tout ça, mais c'est du grand délire. Mmh. Elle demandait plus parce que oui, ça rembourse à peine mais les études que ma fille a faites, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est pas possible.
Vous n'êtes pas un peu dur, Laurent, parce qu'au fond, quoi voulez-vous que ces gens se
raccrochent quoi. Ouais. Alors si tous les gens qui perdent un enfant dans n'importe quelle circonstance demandent de l'argent,
mais monsieur, ils demandent de l'argent toujours, il y a toujours de l'argent. Ça veut dire vous perdez votre père suite à une erreur médicale, il va décéder sur la table d'opération, vous allez pas demander d'argent, vous allez dire merci. Vous allez dire merci au chirurgien.
J'ai jamais su comment il est mort. je me suis battu avec
justement,
ma mère.
Mais simplement, je veux dire, vous perdez un membre de votre famille dans un accident de la circulation, c'est normal. Et là, vous dites que les familles doivent aller combattre Daesh, donc non seulement elles ont leur peine, elles ont leur peine.
Alors pourquoi les gens vont pas manifester, dire bon allez, moi je vais me battre contre le terroriste qui est.
Mais monsieur, parce qu'en plus, il faudrait qu'ils s'occupent, ils sont victimes, il faudrait qu'ils s'occupent.
C'est pas l'État, parce que j'entends tout le monde, oui, c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'État. Mais à un moment donné, faut arrêter de dire que c'est la faute de l'État. Il faut aller.
Qu'est-ce que vous faites, monsieur, contre le terrorisme? Qu'est-ce que vous faites contre le terrorisme, monsieur?
Moi, personnellement, il m'arriverait une chose comme ça. Je peux vous dire que je serais comme ça.
Non, mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour contre le terrorisme?
Là, pour l'instant, ben, je suis franc, je fais rien.
Bon, d'accord.
Je fais rien. Je vais pas sur la prom, hein. Je suis au-dessus de.
Donc, des personnes affaiblies devraient faire plus que vous faites, vous. Très bien.
Pardon?
Les personnes qui sont affaiblies et en peine devraient faire plus que ce que vous faites, vous.
Bah, c'est clair.
D'accord, très bien.
Bon, là, je suis pas, franchement, Laurent, je suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez pas demander, aux victimes de terrorisme, qui ont perdu un être cher, de s'engager d'une façon ou d'une autre contre le terrorisme. Ce sont des gens qui sont humainement ultra fragilisés.
Ça tient pas. Tout ça, d'accord. Bon. Je parle pas de me battre. Attention, c'est pas d'accord. Ça. Mais monter des associations, tout ça. Pas à chaque fois de manger de l'argent, comme d'habitude, le français, il sait très bien faire.
Bien.
Demander toujours de l'argent encore et encore et encore.
Merci mon cher Laurent, merci à vous. Il est 13h48, Manon. Résultat du Brunet-Métry, s'il te plaît.
Eh bien, écoute, résultat final, ça n'a pas évolué depuis tout à l'heure, ça a continué de voter, pardon. Vous êtes toujours 76% à être d'accord avec toi, Eric, et à trouver inapproprié que certains proches de victimes d'attentats réclament plus d'argent.
Merci en tout cas à ceux qui sont venus ici rendre la chose plus claire. Merci à Stéphane Jiquel, secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, la FENVAC. Merci également à Maître Mou Mehana, avocat spécialisé et qui s'occupe en particulier des dossiers des victimes du terrorisme. Voilà, nous allons maintenant poursuivre cette émission. Nous allons aller à l'étranger, où ça?
Exactement, retrouver le français de l'étranger à Hong Kong. On va retrouver Kevin.
À tout de suite.
RMC, hashtag Radio Brunet. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux.
Beaucoup de messages, beaucoup de réactions, les amis.
Oui, je commence par ce message d'Anne-Sophie sur rmc.fr. Sauf erreur de ma part, l'État n'a pas commis d'attentat. Ce n'est pas à lui d'indemniser. De plus, l'argent ne ramène malheureusement pas les morts. Charles nous dit, tout à fait d'accord avec toi, Eric, il ne faut pas abuser, il ne faut pas confondre l'indemnisation et gain au loto. L'État n'est pas la française des jeux. Mathieu nous dit, je trouve ça limite que des gens, alors il met ça entre guillemets, hein, profitent de l'occasion pour réclamer de l'argent.
Oui,
comme
c'est...
Si C'est un peu.
Ouais.
Comme si recevoir 330 000 euros au lieu de 30 000 euros allait apaiser leur peine. Ce n'est pas un chèque qui fera revenir les gens disparus.
Il y a un message intéressant, très intéressant, de Muriel qui nous dit « J'ai perdu mon mari, mon fils, ainsi que ma tante à Nice et je ne réclame pas un centime. C'est une honte de réclamer de l'argent sur le dos de nos morts. » C'est une proche de victime qui parle. Voilà, c'est une voix quand même à entendre. Celle de Cédric également, un message sur la page Facebook de Radio Brunet. Une vie n'a pas de prix, néanmoins le préjudice matériel et économique lié à la perte d'une vie peut être chiffré. Regardez les montants des dédommagements des assurances professionnelles en cas d'accident au travail. C'est de l'ordre parfois d'1 million d'euros, alors qu'on donne beaucoup moins aux victimes de proches du terrorisme.
On a Cédric sur Twitter qui nous dit « L'argent ne ramène pas les morts, je ne comprends même pas le principe. » Corinne nous dit « Moi ça me choque. »
Vous êtes durs, ils sont durs quand même.
Car la vie il n'a pas de prix, mais dur, sujet difficile car il faut y être confronté pour savoir ce qu'on ferait. Catherine nous dit pourquoi inapproprié, Eric, si nos gouvernements étaient moins laxistes envers la crapule, il n'y aurait pas d'attentat.
Et puis ce message de Nicolas, dans un sens, moi je les comprends quand même, qui n'a rien fait pour empêcher cela, bien l'État, mais plutôt que de se cacher derrière l'entité de l'État, les vrais responsables devraient payer pour ça. Il y a forcément une faute professionnelle quelque part lorsqu'un attentat est commis.
Merci mes amis, allez, dans un instant nous allons à Hong Kong.
RMC.
Douce France, je suis venu te dire que je m'en veux.
Appelez plus jamais France.
Radio Brunet, le français de l'étranger.
Bon, Kevin, 36 ans, bonjour, quelle heure est-il à Hong Kong?
Bonjour monsieur Brunet, il est 20h52 à Hong Kong, est-ce que vous m'entendez bien?
Très bien, qu'est-ce que vous voyez devant vous mon cher Kevin?
Eh bien, pas grand chose à vrai dire, si je lève bien les yeux je vois un bout de ciel. Voilà.
Un bout de ciel
entre les tours de Hong Kong en ce moment sur la petite terrasse.
Enfin vous voyez quand même,
terrible,
oui,
c'est ça.
Vous voyez quand même les tours de Hong Kong illuminées quand même. Vous êtes où là?
Oui, alors je suis chez moi, je suis sur ma petite terrasse. Et, le problème c'est qu'elle est entourée de tours et pour l'instant c'est pas trop illuminé. Non, non bon. c'est plutôt nuit là. Hein.
Bon d'accord, il fait sombre. Est-ce que vous êtes prêt à répondre au questionnaire du Français de l'étranger?
Absolument, allez-y.
C'est parti. Quand et pourquoi avez-vous quitté la France?
Alors Eric, j'ai quitté la France il y a bientôt 16 ans maintenant. Et pourquoi? Alors là, je pense que c'est un peu pour l'aventure et tester quelque chose qui se faisait pas trop à l'époque. Voilà, partir en Chine, c'était fun. C'était bien fun. Voilà, c'est la principale raison.
Qu'est-ce que vous faites en Chine?
Je travaille chez, je suis affréteur maritime. Je travaille dans le transport et je transporte des yachts pour nos amis les riches.
Ah, voilà. D'accord.
Pour gros bateaux.
D'accord. Vous n'avez pas de yacht, vous?
Non, j'aimerais beaucoup, mais non, pas tout de suite, peut-être plus tard. Hein. Peut-être plus tard.
À quelles conditions seriez-vous prêt à revenir en France?
Là, tout de suite, pas beaucoup. Si c'est éventuellement un peu de travail en Bretagne, là où j'habite, je suis breton, éventuellement pourquoi pas, et beaucoup de temps libre, j'aime beaucoup le temps libre, c'est pas mal.
Dans le nautisme, dans le bateau, dans la voile?
Oui, en Bretagne c'est plutôt pas mal en plus pour ça, donc éventuellement dans mon domaine, ouais, dans le bateau, ça serait quelque chose à envisager, mais bon, c'est pas pour tout de suite, rien de prévu pour l'instant.
Bon, elle vous manque la France?
Ça dépend quand. L'été au mois de juillet, oui. Là, tout de suite, non, pas trop. Ça dépend vraiment quand, mais ouais, parfois, ouais, bien sûr.
Quelle femme ou quel homme politique élu en 2017 pourrait vous faire rentrer au pays?
Je sais pas, Eric. Pour l'instant, aucun. J'ai pas de choix fait. Je ne sais pas trop vraiment où m'orienter. Donc, on va dire personne pour l'instant, malheureusement.
Vous allez voter? Vous allez voter par procuration à Hong Kong? À Hong Kong?
Ouais. Pas par procuration, au consulat.
Au consulat? Vous allez voter pour qui?
Ouais.
Vous allez voter pour qui?
Ouais, je sais pas encore et malheureusement ça va peut-être se décanter 5 minutes avant le vote et ça c'est dommage. Mais aujourd'hui c'est un peu opaque et. On verra. Je peux pas vous dire, je le sais pas moi-même malheureusement.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Chinois de Hong Kong avec lesquels vous travaillez? Qu'est-ce que vous aimez au quotidien chez eux?
Ils sont optimistes, quoi. Ça roule bien, ça roule vite. Il y a de quoi faire. C'est toujours l'optimisme qui est quand même assez agréable pour lancer un business, un partenariat, n'importe quoi. Ça va vite, quoi. Ça c'est agréable.
Et il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Une manie, un truc qui vous agace chez eux?
Ouais, bien sûr. Oui, il y a quand même. Enfin, le Chinois a pour habitude d'être un peu tout le temps partout chez lui. Et c'est vrai que ça se voit. Hein, le Chinois en vacances à l'étranger ou même dans la nature à jeter sa petite bouteille d'eau. Pas terrible, quoi. Et ça m'agace. Mais bon, ça s'améliore. Hein, Eric, ça s'améliore, c'est de mieux en mieux. Mais ça n'a jamais été.
Oui, il commence à se préoccuper beaucoup de sujets environnementaux, d'écologie quand même, les Chinois. Hein,
Ouais.
Où sont les plus belles femmes du monde?
De loin aussi, et puis chez moi, dans ma maison, tout de suite, là, ma femme.
Non, sérieusement, vous qui voyagez beaucoup, parlez-moi des plus belles femmes du monde.
Chine du Nord, Europe du Nord, Chine, Asie du Nord, super.
D'accord.
Très belle.
D'accord. Et, vraiment, et les plus beaux mecs de la planète?
Dans le Nord. Je sais pas, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Je sais pas, c'est pas à moi de répondre à ça.
Bon, allez, embrassez, saluez quelqu'un qui vous écoute en Bretagne ou en France.
Ben, j'embrasse surtout ma petite maman et puis voilà, tous mes amis, ils le savent, je suis là et puis on se voit cet été, de toute manière, ça c'est sûr.
Où est-ce qu'elle est votre petite maman, en Bretagne?
Elle est en Bretagne, dans le Finistère, voilà. Elle écoute peut-être, sans doute.
Bon, bah oui, forcément. Bah, elle vous embrasse, la maman de Kevin dans le Finistère. Merci Kevin.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un coucou à votre maman, si vous êtes un Français de l'étranger, vous inscrire sur rmc.fr. Il faut que je vous dise, mesdames, messieurs, que dans quelques instants, il est arrivé. Nous serons avec le patron du Parti communiste français, Pierre Laurent. Et on va parler pas seulement de la campagne, un petit peu bien évidemment, mais on va aussi parler de ce qu'est devenu le Parti communiste français et de ce qu'il ambitionne d'être. Voilà, est-ce qu'il est bien dans son époque ou pas, hein? C'est
et
ça
tu poses une vraie question, ouais. Le Parti communiste français sert-il encore à quelque chose?
Mais attention, c'est pas une provocation gratuite, non. Je te vois sourire.
Non, mais parce que la question de la manière,
oui, mais
la manière dont elle est tournée, c'est bien toi quand même.
Parce qu'il n'a, oui peut-être, mais c'est parce qu'il n'a pas de candidat à l'élection présidentielle directe. C'est pour ça que je pose cette question, c'est pas une espèce de provocation.
On se moque pas, on constate simplement. Et vous votez pour le Brunet-Métrie sur le compte Twitter d'Éric et vos avis au 32-16.
A tout de suite.
RMC jusqu'à 15h, Radio Brunet.